Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre consacrée au Père, alors, qui nous concerne bien évidemment tout à chacun, puisque nous en avons tous un, que nous le connaissions ou pas, qu'il nous ait reconnu ou pas, qu'il nous ait éduqué ou pas. En tout cas, ce sont les pères qui sont des êtres complexes, et je crois que les deux textes dont nous allons parler aujourd'hui le prouvent. L'un est un récit, Michel Contat, il s'agit de votre livre, Ma vie côté père, qui fait le récit de votre propre père, c'est très clairement un récit autobiographique, et l'autre étant un roman, votre livre, Pascal Kramer, Autopsie d'un père. Je commence par faire des présentations très rapides avant d'ouvrir la conversation. Pour rappeler Michel Contat que, outre vos livres, vous êtes également chercheur, vous avez consacré une grande partie de votre vie et de vos travaux à Jean-Paul Sartre, dont vous avez édité les œuvres romanesques ainsi que le théâtre complet dans la collection de la Pléiade, que vous êtes également journaliste et que vous avez collaboré au Monde des livres et que vous tenez toujours la rubrique jazz du magazine Télérama. Et puis Pascal Kramer, vous êtes romancière, vous avez publié 9 romans, dont Les Vivants, paru en 2000 aux éditions Kalman-Lévy, L'implacable brutalité du réveil au Mercure de France en 2005, qui avait notamment reçu le prix de la SGDL, la Société des gens de lettres, Un homme ébranlé au Mercure de France en 2011, ou bien encore Gloria chez Flammarion en 2013. Alors, si on commence par votre texte, Michel Contat, donc en rappelant bien qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'un récit, parce que c'est vraiment important pour aborder la question, il ne commence pas par l'évocation directe de votre père, mais par l'évocation du père de votre père, donc ce grand-père qui était un juriste extrêmement renommé, un homme très lié au milieu des arts, très lié aux écrivains également, que vous n'avez pas connu, mais dont vous semblez considérer que cela a pu être difficile pour votre père d'être le fils de cet homme-là. Voilà, c'est le début de votre texte.
Oui, ce grand-père que je n'ai pas connu, mais qui a, par les récits que m'en faisait ma grand-mère, a joué un grand rôle dans mon enfance. Il était vice-chancelier de la Confédération suisse. Et à ce titre, il avait réussi à transformer un peu cette fonction qui est celle d'un secrétaire permanent du gouvernement en une sorte de ministère de la culture. Et c'est lui qui avait obtenu pour Rainer Maria Rilke.
Approchez un peu votre micro, je pense.
Comme ça, oui. Avait obtenu un permis de séjour pour la maîtresse de Rilke, Klosowska. La mère de Balthus et de Pierre Klosowski. Et donc, il connaissait aussi Ernest Ansermet, Charles Ferdinand Ramu, Edmond Gillard, tous ces gens. Il faisait partie des gens qui favorisaient l'essor des cahiers vaudois. Donc, c'était vraiment une personnalité. Et mon père a essayé de suivre ses traces en faisant lui aussi des études de droit, mais ce père était impossible à égaler, donc il a cherché au fond à se créer une vie d'aventurier avec les femmes et le jeu. En gros, ce sont les deux instances qui ont dominé sa vie, les femmes et le jeu.
Et lorsque vous évoquez le mariage de vos parents assez rapidement, et la catastrophe qu'a été ce mariage, c'est le mot que vous employez vous-même, vous le mettez bien sûr sur le compte du fait que votre père était un homme volage et un séducteur.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est à quel point l'histoire de mes parents a été marqué par l'histoire du XXe siècle. Il vivait à Berlin et il menait une vie.
Je pense qu'il faut que vous teniez votre micro dans l'autre.
Voilà. Oui, mais ce que je crains, c'est les labiales.
Comme
bon,
ça.
Bon, enfin, je vais essayer.
Oui.
La venue au pouvoir de Adolf Hitler a été une catastrophe pour eux. Mon père avait sa première situation dans une maison d'assurance qui appartenait à M. Izé, qui était juif, et cette maison d'assurance a donc été arianisée, et mon père a perdu son travail en 1933 et donc a dû se rapatrier d'urgence en Suisse où il n'a pas trouvé de travail. Et donc l'histoire a fortement marqué. Et puis alors, autre événement considérable pour ma famille, c'est la mort sur le lac Léman des deux frères cadets de ma mère, René et Marco, qui sont morts en ramant sur le lac Léman. Il y a eu un coup de tabac comme c'est fréquent ici, un coup de tabac violent, et on n'a jamais retrouvé leur corps. C'est une chose affreuse pour une famille.
Vous dites, Michel Conta, que très tôt, sur les photos de famille, il y a votre frère aîné, dont nous parlerons probablement également tout à l'heure, il y a votre mère et il y a vous. Et que très tôt, il manque quelqu'un sur ces photos, c'est votre père. Et c'est bien sûr le mot « manque » qui fait tout votre récit.
Oui, c'est vrai. C'est l'histoire d'un père manquant, d'un père à éclipse. Parce qu'il a joué un grand rôle dans ma vie quand même. Mais il apparaissait comme une sorte de ludion, extrêmement drôle, sympathique, vivant, racontant des histoires. Et puis il redisparaissait, nous livrant à la mélancolie de ma mère. Et ces moments de grâce qu'il nous offrait de temps en temps, on les payait ensuite assez lourdement par le chagrin qui était resté assez continuellement celui de ma mère. Et nous en voulions un peu à ma mère d'être ce personnage sévère. Non, gentil, elle était affectueuse comme tout, mais elle était du côté de l'apitoiement quand même. Alors que mon père était du côté de la joie légère de vivre.
On pourrait peut-être dire, Pascal Kramer, que ce père manquant, c'est aussi un peu celui que vous mettez en scène dans votre roman, donc l'autopsie d'un père. Un père qui, après avoir difficilement concilié une carrière de journaliste brillant et de veuf, est devenu pour sa fille, qui est celle qui tient le récit du roman, est devenu pour sa fille un père. Alors je ne sais pas si c'est manquant, c'est peut-être plutôt un père lointain qui serait plus juste, me semble-t-il.
Oui, puis un père jugeant aussi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a, elle a été très adulée toute petite après la mort de sa mère, donc entre 4 et jusqu'à l'entrée au collège, où il s'avère qu'elle est une élève en difficulté. C'est pas un cancre, c'est pas quelqu'un qui refuse d'apprendre, c'est quelqu'un qui a du mal, et donc elle déçoit, et donc elle va avoir ce sentiment de pas être à la hauteur, d'être insuffisante, et elle va, elle aussi, se mettre en... En fait, le récit, le portrait du père est vu par elle. Donc, effectivement, on est dans sa subjectivité. Donc, est-ce qu'il a été aussi mauvais père qu'elle le ressent ? On ne le sait pas vraiment. Peut-être qu'il avait quand même plus d'affection qu'elle ne l'a ressenti. Mais c'est vrai qu'elle s'est toujours sentie jugée insuffisante et que donc, elle s'est mise en retrait, elle aussi. Et donc, il a été manquant, mais parce qu'elle aussi l'a un peu fui. Et puis, effectivement, beaucoup absent, parce que vivant un peu en grande banlieue parisienne et étant souvent à Paris, donc effectivement, et puis ensuite séducteur, enfin voilà, donc effectivement il y a cette grande maison où ils ont été sous le même toit, mais puis ensuite elle est partie assez vite aussi, pris la décision d'être en pension, donc effectivement, il n'est pas beaucoup là.
Voilà. Alors dans vos deux textes, bien sûr, c'est toute la complexité de la relation. Alors dans votre cas, Michel Conta, entre un fils et son père, et dans votre roman, entre une fille et son père. Et dans les deux cas, effectivement, il y a la distance, il y a l'absence, il y a l'éloignement. Dans votre roman, le roman commence, Pascal Kramer, au moment où le personnage, la fille, retourne voir son père après une très longue absence où ils n'ont plus été capables de se parler, au fond.
Oui, qui s'est d'ailleurs pas... Il y a eu un mot de lui qu'elle a vécu comme extrêmement blessant, et donc elle est plus retournée pendant 4 ans, et il n'a pas non plus fait la démarche de la revoir. Et donc effectivement, ça fait 4 ans qu'ils se sont pas vus, et elle retourne le voir parce que il défraie la chronique, et donc c'est ça qui lui donne envie d'y aller. Et elle se dit aussi qu'elle a peut-être pas le droit de priver son fils de cette grande maison, du relatif luxe qui va avec.
Alors cet arrière-plan, parce qu'il y a quand même dans le roman un arrière-plan qu'il faut expliciter pour pouvoir comprendre, ce père est devenu un père scandaleux, parce qu'il a pris des positions qui, de la part d'un intellectuel de gauche, ce qu'il était initialement, sont apparues comme inacceptables. Et donc, c'est un père scandaleux qu'elle retourne voir.
Oui, mais en fait, elle est très peu politisée. Oui. Et donc, c'est pas tellement... Elle, voilà, il ressurgit dans sa vie à travers la presse. Et elle va le voir d'abord pour cette raison-là. Et en fait, elle, ses griefs, ils sont bien antérieurs. Dans mon esprit, il est pas si différent aujourd'hui qu'il l'était avant, dans ce côté très, très élitiste et très rejetant... sa fille, et puis après ses Comoriens, enfin voilà, il a pas tant changé que ça dans le fond. Et donc elle, il se trouve que c'est le père scandaleux qu'elle va voir, mais c'est une coïncidence davantage. Hein.
Mmh. Alors il y a une forme de violence, on va y revenir plus en détail parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans votre texte qui n'existent pas chez vous, Michel Contat, puisque la relation que vous avez avec votre père est certes complexe, mais elle n'est pas entachée par la violence que Pascal Cramer met en scène dans son roman.
Non, ce qu'il y a de formidable dans votre livre, Pascal Cramer, c'est qu'en fait, il y a là, au cœur de ce livre, un crime épouvantable.
Épouvantable.
Un jeune noir a été assassiné par deux jeunes du quartier, enfin de cette banlieue, qui est en voie de suggestion à l'immigration. Ces deux garçons ont poursuivi ce noir, lui ont cassé les reins et ensuite l'ont noyé pour l'achever. C'est une scène abominable, abominable. Et c'est ça qui donne cette force extraordinaire à ce roman qui a vraiment des soubassements politiques importants. Mmh. Ce que vous décrivez, c'est une France en voie de délitement à cause de l'immigration et des réactions que cette immigration suscite. Le scandale que votre personnage, Gabriel, incarne, c'est le ralliement d'un intellectuel de gauche à une thèse du Front National. Il déclare, après ce crime, « Je me sens solidaire de ces deux garçons, car ils sont chez eux. » Ce qui veut dire que l'autre n'était pas chez lui, n'est-ce pas? Et... du coup, il perd sa place à la radio dont il était un animateur. Et cela provoque des violences très, très, très présentes. Ça finit par l'incendie d'une maison aux abords de la propriété du père. Et donc, ce que vous nous décrivez, c'est la France d'aujourd'hui, avec les thèses du Front National qui sont vécues de la façon la plus moche possible par une partie de la population. Ça, c'est très, très fort. Je viens de lire pratiquement toute l'œuvre de Henning Mankell, l'auteur de romans policiers. Et ceux d'entre vous qui avez lu cet écrivain savez à quel point son personnage, Mats Wallander, le commissaire, existe par la présence très forte de son corps. Et je me suis dit, si vous voulez faire vivre votre personnage, il faut lui donner un corps, et un corps souffrant. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, qui concerne la nouvelle femme de Gabriel, qui s'appelle Clara. Et vous dites ceci: Clara sourit, en fait, elle n'écoutait déjà plus. Elle était épuisée, probablement pas douchée. L'odeur légèrement aigre de ses aisselles imposait une intimité à peine déplacée entre elles. Cette phrase est extrêmement forte. De parler de l'odeur d'aisselles d'une femme, je trouve que cette incarnation que vous donnez à cette femme, elle se prolonge tout au long du roman. Le roman est fait aussi d'odeurs, d'impressions. J'admire beaucoup, beaucoup la façon dont vous, vous racontez cette histoire. C'est un excellent roman. Lisez-le, je vous dis, engage vivement.
C'est un éloge, mais c'est formidable. C'est bien quand les auteurs apprécient leur texte réciproque, c'est formidable.
Oui, moi, j'aimerais être encore critique littéraire.
J'aimerais beaucoup que vous le soyez.
Pour parler de ce livre, j'aurais fait volontiers.
Pour compléter ce que vous venez de dire, Michel Contat, moi, il y a une phrase que j'ai relevée aussi dans votre roman, Pascal Kramer, qui situe bien aussi ce mystère. Parce qu'au fond, Gabriel est mystérieux aux yeux de sa fille. Et il le reste jusqu'au bout. Mais il y a cette phrase, lors de leur dernier échange. Donc, au bout de 4 ans d'absence, ils vont se voir une seule fois, parce que ensuite arrive une tragédie qui fait qu'ils ne se verront plus. Et Gabriel dit à sa fille qu'il a offert aux hypocrites un moment d'unanimité à bon compte. C'est à propos de ce crime que vous venez d'évoquer. Et là, on se dit, vous n'éclairez pas totalement les choses, et c'est très bien ainsi, mais on se dit que, voilà, c'est un personnage extrêmement complexe.
Oui, et puis j'essayais de mettre le lecteur dans la position. Finalement, moi, je ne porte pas de jugement. Ça a été d'ailleurs très difficile pour moi parce qu'au début, j'avais envie de me positionner moi, enfin de dire moi, je ne suis pas comme ça. Enfin, et puis je me suis dit, mais non, j'ai pas à dire qui. Enfin, voilà, moi, je sais qui je suis. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de mettre le lecteur dans cette situation où on est tous finalement de savoir qu'est-ce qu'on pense vraiment, où est-ce qu'on se situe. C'est devenu très très complexe. Moi-même, je suis très vigilante avec moi-même parce que je ne sais pas dans quelle mesure une évolution, je ne sais pas, plus d'attentats, plus de choses, à quel moment on pourrait aussi... je ne sais pas, en fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une des choses très existentiellement fortes qu'on vit en ce moment, c'est de savoir où on se situe vraiment. Et donc, j'avais envie de pouvoir dire ça sans porter de jugement, mais en laissant vivre les choses, et puis en voyant ces deux France, parce que c'est finalement ces jeunes, ce sont aussi des gens qui sont très très... Moi j'ai vécu, alors je me suis beaucoup inspirée, j'ai vécu dans le nord de la France, dans un petit village, c'est vraiment cette France qui est vraiment laissée complètement à l'abandon, avec des carences... économique, morale, éducative, spirituelle, enfin un peu tout. Et voilà, sur lequel c'est un terrain facile. Et puis finalement, ces jeunes-là... d'ailleurs, je dis à un moment donné que les jeunes qui ont battu ce Comorien, c'était pas des courageux, c'était pas assez... quand ça va exploser à la fin, c'est en fait c'est des gens très un peu veulent, un peu, ça fait partie de ces jeunes que moi j'ai bien connus, à qui on n'arrive pas à décrocher deux mots, qui sont un peu et puis qui se sentent complètement en marge et c'est vrai qu'ils l'ont été, et que leur haine, moi je la regrette, mais je trouve qu'elle est excusable. Et puis on a ce personnage de Clara qui vient d'un milieu beaucoup plus bourgeois et puis elle veut pas de ce... et après tout c'est des opinions différentes et c'est compliqué de savoir parce qu'elle est par ailleurs, elle a des côtés sympathiques et donc voilà, c'est tout ça est très complexe quoi. Et en fait et je trouve qu'on est vraiment en fait ce livre, j'ai mis 3 ans à l'écrire et je me disais il faut que je me dépêche de le sortir parce que les choses elles évoluent tellement vite que je me disais, je vais être bientôt en deçà de ce qui est. Et on est oui. Presque déjà un pas plus loin, en fait.
Il y a une autre phrase aussi qui éclaire bien le contexte, qui est le moment où Gabriel dit qu'il en veut à sa génération d'avoir laissé ce monde-là, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'installer. Et du coup, quand il pose ce geste fatal, puisque donc le geste fatal, c'est son suicide, bien évidemment, il y a toutes les interrogations sur la raison. Alors, vous me direz que face à un suicide, on se pose toujours des tas de questions, mais là, on se demande, est-ce que ce sont ses échecs personnels? Est-ce que ce sont les retombées du fameux scandale qui lui ont valu donc, d'être évincé de la radio où il travaillait? Est-ce, pourquoi pas, la difficulté de sa relation avec sa fille? Tout ça concourt à ce mystère, quand même.
Ah oui, ça reste mystérieux. Motifs du suicide, comme
on
d'ailleurs
sait pas,
tout suicide,
toujours, oui.
C'est jamais assignable à une cause.
Mais en fait, pour moi, il y avait une phrase qui l'écrit, donc, c'est à la fin du premier chapitre, où il a vu cet homme... quand il arrive en train sur Paris, il a vu un homme comme ça, un peu d'une autre époque. Il dit, c'est, voilà, c'est un homme d'un monde complètement révolu. Et je pense qu'il y a un... Je tenais à ce qu'il se suicide, parce que je pense que c'est un homme qui est aussi dans une peur. D'ailleurs, je pense que beaucoup de quand j'écoute Phil Kulkroth, je me dis, mais c'est un homme qui est dans une peur. Et la peur, bon, bah, ma foi, on n'a jamais tort. Enfin, on a peur, c'est pas... et donc, le fait qu'il se suicide, ça... Voilà, c'est que c'est sa vérité, et elle est très très profonde, et je pense que il faut écouter ça aussi, il me semble. Mmh. Voilà, donc, effectivement, les raisons sont sans doute multiples, mais l'idée de départ est partie un peu de Richard Millet, que j'avais connu, que j'ai admiré comme auteur, que j'avais trouvé infiniment sympathique dans une rencontre à Brive, et puis tout à coup il y a eu ce texte qui a fait scandale et qui l'a mis en marge, et je l'entendais un jour. Et alors, il est dans une... Lui, il est vraiment... Enfin, ça frise le délire, je pense, où il est maintenant. Mais on ressent une peur absolue de ce monde. Et voilà, on est triste pour eux, à la limite. Hein.
Mmh. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit instant à votre texte, Michel Contat. Alors, chez vous, il n'y a pas... l'histoire est moins tragique. Il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de mort violente. L'histoire est tout de même plus sereine. Mais il y a quand même peut-être quelque chose qui vous rapproche. Ce serait l'idée de la déchéance du père. Il y a aussi chez vous cette idée-là que votre père a déchu.
Au fond, la situation de la Suisse, c'est de vivre, surtout à l'époque que je raconte, à l'écart de la grande histoire. C'est un pays préservé. Et il y a à peu près l'équivalent de la phrase scandaleuse de votre personnage dans la bouche de mon père, au moment où il m'annonce qu'il va épouser une femme riche et laide. Nous sommes dans un restaurant sur la route de Paris, venant de nous goberger. Il a bien bu. Et à la fin du repas, il avise une femme à quelques tables de nous, vraiment hideuse, et il me dit cette phrase. Tu vois, mon garçon, à côté de celle que je vais épouser, celle-là, c'est Lollobrigida. C'est une phrase d'un cynisme insupportable, que j'ai eu presque du mal à rapporter. Mais mon père, c'était ça, hein, c'était un jouisseur cynique, mais qui avait quand même aussi des côtés charmants, charmeurs. C'était un séducteur. Et il séduisait ses enfants aussi. Hein. Et là, j'ai senti qu'il allait changer au fond de nature avec ce mariage. Et pendant quelques temps, je le raconte peut-être pas assez, mais il était devenu un bourgeois fortuné, avec les idées d'un bourgeois fortuné dans la tête, comme s'il avait toujours été de ce côté-là, alors que c'était un homme qui avait eu une certaine audace scandaleuse en quittant femme et enfant pour une jeune Allemande, une Allemande de 23 ans, qui était la veuve d'un officier de la Wehrmacht en 45 à Berne. Voilà, ce monsieur qui a la quarantaine, qui a une belle situation dans une société d'assurance et qui quitte femme et enfant pour une aventurière. Au fond, c'était ça. Mmh. Ma mère a toujours dit que mon père était victime d'une aventurière qui avait besoin d'un passeport suisse. Il y avait peut-être du vrai là-dedans, mais moi, j'ai senti autre chose. Il y avait entre eux une vraie passion charnelle. Mmh. Ça, c'était très important. Mmh. Et donc, si vous voulez, il y avait aussi une part d'audace et de non-conformisme de la part de mon père d'oser ça, de donner priorité à son désir. Mmh. Voilà, c'était un homme ambigu, provoquant des sentiments ambivalents. J'ai eu cette ambivalence pendant très longtemps. Alors, tout ça m'a amené à réfléchir à la place du père dans la vie de quelqu'un. Ce sont les psychanalystes, au fond, qui ont révélé qu'il y a toujours ou trop de pères ou pas assez de pères. Que la difficulté, c'est de régler la distance. Et ce livre, pour moi, ça a été une façon d'ajuster mon propre être à bonne distance de mon père. Pas dans la rancune, pas dans la célébration non plus, mais dans une sorte d'affection un peu désolée pour un personnage. La fin du livre me plaît bien. Je compare mon père à ce personnage dans un film de Jules Dassin qui s'appelle Les Forbans de la nuit. C'est Richard Widmark, qui est un petit truand. Et la femme qu'il aime, Jean Tierney, voit son cadavre dans la Tamise et dit c'était un artiste, mais un artiste sans art. Et c'était ça, mon père, un artiste sans art.
Mais c'est un excentrique, surtout. C'est ça qui est très séduisant. C'est un excentrique, en fait.
Oui,
il est,
oui, bien sûr.
Et c'est intéressant parce qu'il n'est jamais là. Et en fait, à la fin, je ne sais plus qui dit si vous voulez savoir qui est Quentin, il faut lui faire parler de son père. Et donc, c'est incroyable. C'est lui qui vous définit. Alors que... Mais il est infiniment séduisant, effectivement, ce père.
Alors, vous savez, comme moi, qu'il y a une sorte de fortune à l'heure actuelle particulièrement vivace de la littérature sur le père. Il y a le livre de Sorge Chalandon qui s'appelle Profession du père, où c'est un père largement fantasmé d'ailleurs, qui raconte qu'une espèce d'espion de would-be spy, n'est-ce pas. Et puis il y a le livre que je n'ai pas lu du chanteur et écrivain Marc Lavoine qui s'appelle L'homme qui ment. Je viens de voir que l'auteur de bande dessinée et cinéaste Johann Sfar vient d'écrire un livre sur son père aussi. Il y a le vôtre. Et le vôtre, il est particulièrement intéressant parce que cette autopsie, l'autopsie au sens médical et policier du terme, c'est la recherche des causes réelles d'une mort. Or, plus on avance dans ce livre, plus le mystère s'épaissit.
Ça n'est pas ça du tout, oui. Oui, oui.
L'autopsie
on est à l'inverse.
Ne révèle rien.
Oui, oui, oui.
Mais nous suivons ce père à travers le vécu fantasmagorique de sa fille. Nous le suivons dans ses aberrations, sans vraiment le comprendre, mais en nous rapprochant quand même d'un mystère qui s'épaissit.
Alors bien sûr, la complexité de ce qu'est un père, et vos livres en témoignent bien, dépend du point de vue auquel on se situe. À l'instant, Pascal Kramer disait « Mais votre père est infiniment séduisant. » Il est vrai que c'est un père négligent pour vous, le fils. Mais par ailleurs, il est très séduisant. Et vous dites une chose que moi j'ai beaucoup appréciée. Vous dites qu'il était au fond sans imagination pour tout ce qui ne touchait pas à ses plaisirs personnels. Mais par ailleurs, il a une imagination folle.
Oui. Mais enfin, il était extraordinairement frustrant pour nous, ses fils.
Oui. Mais aussi dans le contexte suisse, parce que moi je retrouve plein d'éléments, le collège du Belvédère, le gymnase de la Cité, Lausanne, le protestantisme, etc. Mais alors c'est des vies tellement différentes de celles que j'ai pu connaître moi dans ces mêmes lieux. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment, par rapport à leur société, en plus à l'époque, ça devait être vraiment des gens complètement marginaux.
Oui, tout à fait.
Il y a une phrase.
Et alors, le résultat de tout ça, donc ce père manquant, ce défaut de père, a fait aussi que j'ai passé ma vie à me chercher,
des pères. Voilà.
Grands frères. Michel Thévaux a joué un grand rôle de ce point de vue. Freddy Buach aussi. Et puis ensuite Sartre,
évidemment,
à qui j'ai consacré quand même une grande part de ma vie. Et puis Sartre savait formidablement bien se dérober aux tentatives d'adoption qu'on lui réclamait. Il y avait beaucoup de fils putatifs, si vous voulez, autour de Sartre.
Oui, parce que c'est le récit vraiment de votre recherche des figures paternelles. Et puis vous citez cette fameuse phrase de Sartre, c'est dans les mots, il n'y a pas de bon père, c'est la règle, qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Voilà. Et donc c'est assez intéressant. Peut-être que ça pourrait en partie convenir à Anya, cette phrase-là, elle serait peut-être un peu sartrienne, non? En tout cas, dans son...
Pas consciemment.
Oui, pas consciemment, voilà, mais ça pourrait assez bien lui convenir. Mais elle est terrible en même temps, cette phrase.
Comment ?
Elle est terrible, cette phrase des
oui,
mots.
Oui, terrible, oui. Oui. Oui, mais, et puis alors, il la poursuit, en disant, eût-il vécu, mon père se fut couché sur moi. Et il dit, cette phrase qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est, il en a connu tant de ses fils chevauchés à jamais par leur père, portant comme aîné, portait enchise sur ses épaules. Et j'ai connu un ami de Sartre, c'était une sorte de filleul de Sartre, John Gerassi, qui a été toute sa vie chevauché par son père, et ça a continué après sa mort. Ce garçon, Tito, un copain à moi, parlait de son père encore avec une passion, comme s'il était encore là à le tourmenter. Mmh. Alors, ça n'a pas été mon cas. J'ai pu, du vivant de mon père, trouver cette distance favorable. Mmh.
Vous dites, Pascal Kramer, à propos de Gabriel, que d'une certaine façon, il n'est jamais rentré dans le concret de son rôle de père. Mais au fond, qu'est-ce que ça serait le concret d'un rôle de père ?
Déjà de se préoccuper justement des devoirs, enfin de tout ce qui est... Il y a un moment où on sait qu'elle s'est retrouvée complètement seule à l'adolescence face au problème des soutiens-gorge à acheter. Et voilà, il a pas... Bon, alors effectivement, normalement, c'est le rôle de la mère. Lui, il n'a pas su remplacer ça. Puis surtout, on comprend qu'il l'a beaucoup adulé quand il était petit, mais en fait, il aimait surtout cette idée d'être un veuf seul avec sa petite fille qui est charmante dans cette maison. Mais en fait, il n'a jamais... était dans, on imagine, dans les réunions de parents d'élèves, dans les tas de choses. Voilà, je pense qu'il y a des tas de choses à prendre en charge. Moi, je connais... Mon père est mort quand j'avais 20 ans, mais il était malade, très malade, en dépression grave, enfin, etc., depuis des années. Donc, en fait, je ne sais pas très bien, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un rôle de père. Hein. Mais j'imagine que, oui, que ça devrait être ça aussi. Mmh.
Michel Conta, selon vous, parce que pour reprendre cette phrase, le concret d'un rôle de père, ce dont vous avez peut-être été privé, oui, de toute évidence, privé lorsque vous étiez enfant, c'est quoi ce concret ?
C'est un... Comment dire ? C'est un père qui assume le fait d'être père. Mmh. Le mien de père n'était vraiment pas fait pour ce rôle-là. Il n'y était pas bon. Mmh. Hein ? Ouais. Par rapport à mon fils, j'ai essayé, d'être un meilleur père que celui que j'avais eu. Je ne sais pas du tout si j'ai réussi. Autre chose que je voudrais dire à propos de cette absence de l'histoire que nous avons vécue. Moi, je suis de cette génération de Suisses qui rêvait de s'expatrier, d'aller vivre la vraie histoire ailleurs. Mon ami Luc Chessé, je ne sais pas s'il est là, il est allé vivre... l'aventure révolutionnaire cubaine à La Havane. Mmh. Et il a magnifiquement réussi une carrière artistique, de photographe, en faisant de La Havane son port d'attache. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film d'Alain Tanner qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelle « Le retour d'Afrique ». C'est l'histoire d'un couple qui veut quitter la Suisse, qui veut quitter le confort helvétique pour aller vivre la grande histoire. Alors, il va à la gare, il ne prend pas le train, il se réfugie dans un appartement dont il ne sort plus. Et le retour d'Afrique, c'est l'enfermement redoublé dans un lieu préservé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup souhaité émigrer. Ça s'est fait tardivement dans ma vie. J'avais 30 ans passés, oui, j'avais 35 ans quand j'ai... finalement émigré à Paris, qui était la ville de mes rêves, la ville que j'avais désirée à travers la littérature. Pour moi, Paris, c'était les jardins du Luxembourg, tels que André Gide et Jean-Paul Sartre l'avaient décrit. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont 35 ans en Suisse, ils n'ont plus ce désir de rejoindre une histoire qui les aurait épargnés. Je ne pense pas que ce désir d'émigration existe encore de façon assez forte. Surtout qu'il est très possible aujourd'hui pour un artiste suisse d'aller vivre quelque temps à Paris, quelque temps à Londres, quelque temps à Berlin. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et il y a mais vous, vous avez émigré aussi.
Moi, je vous ai suivi, en fait. Parce que vraiment, on a les mêmes étapes. Et effectivement, moi, j'ai eu cette envie de Paris. Mais alors aussi, c'était par rejet de Zurich, parce que j'ai vécu à Zurich et j'y étais vraiment pas heureuse et je me voyais pas revenir à Lausanne. Mais c'est vrai que j'avais ce désir de Paris, parce qu'à l'époque, j'écrivais, j'arrivais pas à publier, j'envoyais mes manuscrits dans le 6e arrondissement. Et c'est vrai que c'était là que ça se passait, c'était cette envie d'être là où ça se passe. Mais je pense que pour la nouvelle génération, pour eux en tout cas, ça n'est plus Paris là où ça se passe. Je pense que s'il y a des envies d'aller ailleurs, je pense qu'il y a plus d'attirance pour Berlin ou pour, enfin je sais pas, il me semble que c'est ce fantasme que de votre génération et la mienne de se dire on veut être à Paris parce que c'est là que ça se passe, je pense que ça c'est un petit peu perdu.
Mais évidemment pour un écrivain putatif, hein, enfin un would-be writer, un intellectuel, Paris, c'est là que ça se passe. C'est donc là qu'il faut réussir. Si on réussit à Paris, comme dit la chanson New York, New York, if you can't make it here, you won't make it anywhere. Oui, c'était ça. Réussir à Paris, c'est se faire reconnaître par un milieu choisi.
Mais ce qu'il faut entendre dans ce que vous êtes en train de dire et d'évoquer, à savoir l'absence d'histoire suisse que vous semblez déplorer, un lien avec l'absence de père qui était le point, ça serait intéressant comme hypothèse. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez suggérer, hein, mais...
Oui, c'est une idée à creuser.
ce serait...
Non, mais l'idée au fond que... Moi, je dirais comme mon ami Paul Nison... qui, lui, ne s'est pas fait naturaliser français. Il reste citoyen suisse, mais il dit « Je suis avant tout citoyen de Paris. Je suis un Parisien. » Et ça, il l'est au même titre que n'importe qui d'autre. Hein. Alors, je dirais la même chose. Je ne suis pas français, je suis Parisien, même si j'ai la nationalité française. Alors, il y avait évidemment autre chose aussi, c'est que ma famille, en fait, étaient des Savoyards qui avaient émigré de Savoie dans le Valais. Et mon arrière-grand-père a créé une verrerie à Montet, qui a été pendant longtemps l'entreprise florissante de cette localité. Et puis, il y a des Comtats, il y en a encore il y a plusieurs générations de Comtats qui sont restées à Montet.
Ce que montre très bien votre roman, Pascal Kramer, c'est à quel point il est compliqué de restituer la totalité d'un être. C'est-à-dire qu'on arrive, à travers ce personnage de Gabriel, à voir en lui à la fois donc, cet intellectuel qu'il a été et qui a déchu en prenant ses positions. Il est le père d'Anya, il a été le mari de la mère qui est morte brutalement et violemment. Vous en parlez très peu, très brièvement, mais voilà, on apprend les conditions de sa mort. Il est le voisin aussi, parce qu'il y a cette maison qui joue un très grand rôle dans le roman. Bref, il y a toutes ces facettes-là que vous arrivez à restituer, bien qu'Anya soit un personnage plutôt en retrait. À travers son regard, on arrive quand même à saisir tout ça.
Oui, puis on arrive aussi à saisir, Anya, elle va découvrir à travers, par exemple, le geste qu'a la nouvelle épouse, le corps est donc exposé là pendant tout le livre, et elle a un geste comme ça, elle prend la cheville et Anya est surprise qu'il puisse y avoir une intimité comme ça, donc elle découvre justement qu'il aurait peut-être voulu voir son petit-fils davantage, enfin, tout à coup, on a comme ça, tout à coup, des choses, mais on fait tous cette expérience-là, en fait, d'apprendre par une tierce personne des choses sur des très proches qui nous révèle des pans insoupçonnables. Donc effectivement, ce père, on l'approche un peu par... puis aussi, tout à coup, dans ce village où il a considéré un peu du temps de sa grandeur que les gens étaient un peu plouques, tout à coup, il se retrouve à penser un petit peu comme eux. Et on voit aussi qu'il flatte finalement le village. Et donc, voilà, on découvre tout à coup des choses. Et puis, par son ancienne maîtresse, qui est la prof, enfin, la directrice de l'école du petit Théo, qui est sourd, tout à coup, là aussi, on découvre en fait que finalement, il s'était intéressé à la surdité du petit garçon. Et que voilà, donc, on apprend quand même des... En fait, il me semble que tout ce qui vient un peu peu de... Parce que je ne voulais pas le noircir trop le portrait, puis je trouve que les gens sont de toute façon toujours... Enfin, il y a toujours des choses à récupérer. Et, mais ça vient de l'extérieur, en fait.
Oui. En fait, pour Anya, il y a deux figures parentales, quand même, dans le livre. Ce sont les domestiques.
Oui, enfin,
lui est jardinier, et puis elle est la gouvernante. Et c'est eux qui ont véritablement élevé cette petite fille...
Oui, et qui sont déçus, ça c'est assez terrible, parce qu'ils sont en grande admiration devant le père, qui au début, on pense, il a un attachement, mais il les juge aussi un peu provinciaux. Enfin, et donc, ils sont en admiration devant le père, et donc, ils endossent la déception que le père a pour la petite, et en fait, ils sont très durs avec la petite, parce qu'il la voit décevant le père. Et ça, c'est assez terrible.
On se demande d'ailleurs si ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont rester dans ce manoir, ou est-ce qu'ils vont être exclus.
On ne sait pas ce que va devenir cette maison.
Ça, c'est à vous, lecteur, d'imaginer la suite. Mais c'est vrai que les personnages du couple de gardiens de la maison, ils sont très importants, parce que c'est grâce à eux, quand même, qu'on a la vision positive sur Gabriel, voilà, qu'on apprend que cet homme a pu être profondément admiré et que probablement c'était quelqu'un d'admirable aussi, voilà. Ouais, s'ils n'étaient pas là, on le saurait pas.
Non, tout à fait. Puis qu'il a aussi été capable d'une fidélité à ces gens-là, donc il y a quand même. Il a des choses. Mais ces personnages, pour moi, ils sont très suisses, en fait. C'est des gens qui ont tout bien fait et qui, eux, peuvent avoir un rejet de l'étranger perçu comme quelqu'un qui fait pas tout bien comme eux l'ont fait. Donc il y a une espèce de... quelque chose que je retrouve un peu dans certaines attitudes. Il me semble que le rejet de l'autre suisse n'est pas le même que le rejet français. Enfin, il y a... Le résultat est le même, mais la démarche n'est pas tout à fait la même.
Ça, c'est intéressant. Alors ça, j'aimerais bien que...
Mais parce que oui. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai compris avec... J'ai fait un trajet en voiture avec un ami d'amis qui est un ancien moine qui a vécu dans les quartiers nord de Marseille, quelqu'un qui me parlait, qui est directeur d'une maison de retraite, et il me parlait magnifiquement. On allait à Ikea et au retour, et donc à l'aller, il me parlait magnifiquement des aides-soignantes, de la perplexité des très vieilles personnes face à la mort. Enfin, c'était quelqu'un qui est plein de sensibilité, et au retour, il me parle de Zemmour en me disant, mais moi je comprends tout à fait, moi j'ai honte d'être français aujourd'hui, la France n'est plus grande. Et là, ça m'a. Alors, je me suis dit, tout d'un coup, j'ai compris qu'aussi, c'était une des dimensions d'être suisse, c'est de ne pas regretter une grandeur, parce qu'en fait, quand on allait à l'étranger, enfin, on est un peu les petits Suisses, on nous raconte des histoires de qu'on n'a pas le droit de traverser la route hors des clous, enfin bon, etc. Donc, on n'a pas une. Moi, je me suis construite sans avoir l'impression d'appartenir à un grand pays. Et donc, je pense que dans le sentiment français, c'est cette idée de perte de la France. Voilà, on a perdu notre tradition d'élitisme, etc. Alors que du côté suisse, c'est plutôt tout fout le camp, les gens sont plus. Mettent les papiers par terre et sont plus. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même. Encore une fois, le résultat est le même, mais c'est pas le.
Oui, d'accord.
C'est à chaque fois de dire regrette quelque chose.
Oui, j'assistais hier à un débat ici sur la Suisse comme pays le plus heureux du monde. Le malheur suisse, c'était finalement d'être promis à une seule chose, c'est au confort. Nous, je suis de la génération qui a vécu cela comme un malheur. Aujourd'hui, je pense que les Suisses... comment dire, se sont résignés à leur confort. C'est un pays qui va bien, qui n'a pas de graves problèmes sociaux. Il y en a, bien sûr, mais qui ne sont pas dramatiques. Il y a une classe politique qui a une certaine valeur. Je ne parle pas de Blocher, mais enfin, bon... les édiles suisses sont des gens honnêtes. Il n'y a pas de gros scandales avec des hommes politiques suisses. En France, quand on pense que Nicolas Sarkozy va être une fois de plus candidat avec des mises en examen qui n'auront pas été réglées, il est très vraisemblable qu'il a consciemment faussé les comptes des électoraux. Je veux dire, le financement de sa campagne est illégal. Enfin, les tribunaux n'auront probablement pas à trancher avant qu'il soit candidat. Et après, il ne pourra plus l'être, je veux dire, jugé. Donc tout ça est moche, profondément moche. Alors nous avons vécu la France comme la grande nation culturelle. Nous sommes des lecteurs d'André Gide, d'André Malraux, de Jean-Paul Sartre, d'Albert Camus, tout ça. Il y avait de quoi être fier, n'est-ce pas, d'appartenir déjà à cette ère culturelle. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de Suisses qui ont souhaité devenir français. Là, je pense que ça peut être un cas un peu particulier, quand même, de m'être fait naturaliser. Je me suis fait naturaliser aussi pour une raison toute simple, c'est que j'avais été nommé au CNRS, donc j'étais un fonctionnaire de l'État français, donc je voulais pouvoir voter.
C'est pour ça qu'on se naturalise.
Oui. Normal. Hein. Donc oui, le rapport des Suisses à la France est très ambivalent aussi. C'est à la fois la grande nation en perte de souveraineté, enfin de grandeur, et puis le pays auquel la Suisse francophone s'adosse, de la même façon que la Suisse allemande s'adosse à la culture.
Le micro, rapprochez-le.
Avec des sentiments d'ailleurs moins ambivalents, je crois, que ceux des Suisses romands pour
le. Il faut bien rapprocher le micro pour qu'on vous entende. J'aimerais quand même revenir à votre livre, même si ce que vous dites là est extrêmement intéressant, et je pense que ça donne des envies de débat sur ce genre de sujet. Mais quand on lit votre texte, Michel Contard, on se dit que de toute évidence, votre père vous a infiniment marqué, même s'il vous a manqué, mais il vous a beaucoup marqué. La preuve en est ce livre-là. Vous avez mis longtemps avant de l'écrire. Quelles étaient vos réserves? Qu'est-ce qui vous a empêché, au fond, d'écrire ce livre plus tôt?
J'en éprouvais moins la nécessité. C'est venu du fait aussi que j'ai eu en 2015 d'assez sérieux ennuis de santé, ce qui m'a amené à avoir des entretiens avec un psychiatre. Et là, je me suis aperçu que j'étais en train de raconter l'histoire de mon père pour m'expliquer moi-même. Donc ça m'a incité finalement, puisque j'avais fait de l'autobiographie orale pendant des années en racontant des anecdotes sur mon père, ça m'a incité à écrire ce livre. J'étais à New York, je donnais des conférences que j'avais écrites, donc j'avais tout mon temps. Et le livre, pour ainsi dire, coulait de la plume. Pourquoi je ne l'ai pas écrit avant? Il était exclu de l'écrire tant que mon père était vivant.
Oui, ça, oui, bien sûr.
Je ne sais pas du tout comment il aurait réagi au portrait que je trace de lui. Je n'ai pas la moindre idée. Ouais. Il aurait été partagé entre la fierté d'être un héros de roman. Et puis, je me rappelle d'une chose qu'il m'avait dite. J'avais écrit un petit texte autobiographique à l'âge de 20 ans. Que j'avais appelé « On a raison à 20 ans ». C'était une façon me déjuger par rapport aux trahisons que je sentais devoir venir avec l'âge. Et je parlais de ma famille, les Contats, comme une famille à l'idéologie petite bourgeoise. Et il m'avait dit, mais non, nous ne sommes pas des petits bourgeois, nous ne sommes pas non plus des grands bourgeois, nous sommes des bourgeois. Et puis moi, je lui avais rétorqué, non, mais petit bourgeois au sens marxiste, c'est une idéologie. Et puis je continuais à penser qu'en effet, ils avaient dans la tête des idées de petits bourgeois. Je ne l'aurais pas pu écrire, ce livre, plus tôt. Il est venu au moment où je pouvais. Mais ce dont je me suis aperçu aussi, c'est que je serais incapable d'écrire sur ma mère, avec qui j'ai eu des rapports heureux. C'était une femme affectueuse, j'étais un fils affectueux. Ce qui nous a séparés, c'est plutôt la maladie de mon frère qui s'est interposée entre nous deux. Parler de ma mère, ce serait vraiment très, très, très difficile. Parler de ma mère, ce serait parler aussi de mon rapport avec les femmes, c'est délicat.
Mais en imaginant la réaction qu'aurait pu être celle de votre père à la lecture du texte, vous venez de dire comment aurait-il réagi à la lecture de ce roman. Or, précisément, ça n'est pas un roman. Vous n'avez pas choisi de faire de votre père un personnage de roman. Vous avez choisi d'écrire un récit, c'est-à-dire d'être dans le concret et dans le réel. Donc, vous n'avez pas mis le filtre de la fiction.
Oui, il s'agit pas du tout d'une autofiction, il s'agit d'un récit autobiographique. Mais il se trouve que comme mon père était un personnage très romanesque...
Oh, oui, on se dit ça.
Pas besoin, on aurait ouais. Si bien.
Il m'offrait le roman de sa vie, oui. Il suffisait de l'écrire.
Oui, c'est un formidable personnage de roman. Hein.
Mais vous savez, il y a une chose pour laquelle il a été très très formateur, c'est que c'était quelqu'un qui avait une culture économique. Nous étions totalement incultes, scolairement et universitairement. J'ai encore aujourd'hui le sentiment d'être analphabète en matière d'économie. Et alors, comme j'étais un intellectuel de gauche, je devais argumenter avec lui. Et il était costaud, hein. Et alors, ce que je raconte, c'est qu'à un moment, voyant que je me mettais à avoir des idées progressistes qui me rendaient, comment dire, indulgent à l'égard du camp de l'Est, du camp dit socialiste. Alors, en 1960, il m'a emmené à Berlin. Nous logions à l'hôtel Hilton de Berlin-Ouest. Le soir, je prenais un taxi pour aller à Berlin-Est voir les pièces de Brecht. Le taxi m'attendait jusqu'à la fin. Vous voyez un peu ce que ça pouvait coûter. Et je voyais ces pièces, Arturo Huy, Galileo Galilei, Moteur Courage. Et puis surtout, alors ça c'était un dimanche après-midi, j'ai vu l'adaptation par Brecht de La Mère de Gorky, dans laquelle il y a des chansons. Vous savez, comme dans les pièces de Brecht, il y a souvent des chansons. Là, c'était l'aube dem communismus, louange aux communistes et au communisme. Et je voyais ça devant un parterre d'officiers russes et dans les balcons des syndicalistes emmenés là par car. Vous voyez un peu l'effet que ça pouvait me faire. Et donc, mon père a eu la partie facile là, parce que je ne pouvais vraiment plus défendre. Il voulait que j'ouvre les yeux devant les réalités.
Une dernière petite chose, puis après peut-être on va donner la parole au public. Je disais, Pascal Cramer, que de toute évidence, Michel Contat a été très marqué par son père. On se pose la question, pour ce qui concerne votre personnage, Anya, on se demande si elle a été marquée par son père, parce que quand elle évoque en fait les rares épisodes de leur vie qu'ils ont eu en commun, parce que finalement ils ont assez peu vécu ensemble, on se demande si elle a été vraiment marquée par lui.
Ah ben moi, je dirais qu'elle a été marquée, en tout cas, elle a été blessée de façon irréparable, quasiment, oui. Donc, de ce point de vue-là, oui. Il a complètement décidé de son avenir en portant ce regard déçu. Je pense que décevoir ses parents, c'est quelque chose, quand on l'a pas cherché, parce que quand on l'a cherché, c'est formidable, mais quand on l'a pas cherché,
il n'y avait pas de provocation de sa part.
Pas
là.
Du tout, non, pas du tout. Et donc, je pense qu'elle a été vraiment. Et puis, beaucoup de gens m'ont dit, elle a pris le contre-pied, mais en fait, non. En fait, après, quand on n'est pas bonne à l'école et qu'on se marie, voilà, et qu'on n'a pas de formation vraiment, on atterrit pas à Paris, mais dans les banlieues, et puis voilà, puis on se retrouve avec ce destin-là. Donc, c'est même pas. C'est qu'elle l'a rendue aussi assez passive, parce qu'en fait elle ne décide pas non plus, enfin elle décide si d'aller en pension à un moment donné, et puis pour le fuir, et puis ensuite elle décide mais pas vraiment non plus de plus le voir, mais autrement il en a fait quand même quelqu'un qui est relativement éteint et qui a pas confiance en lui. Ouais, je crois que c'est enfin, je pense que la seule chose que des parents peuvent donner de vraiment utile, c'est la confiance en soi. Et ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais effectivement, là, et ça, je pense que c'est vraiment, c'est même un peu criminel, hein, de faire perdre la confiance en soi à ses propres enfants.
Bien, mais écoutez, je vous propose qu'on ouvre un peu la conversation en vous laissant la possibilité de poser des questions ou de faire des remarques sur ce qu'on a pu dire. Donc, voilà, les micros, je ne sais pas s'il y a un micro d'ailleurs, oui, il y en a, sont à votre disposition. et vos questions sont les bienvenues. Oui, monsieur.
Il est enclenché, voilà. Je m'appelle Daniel Sen. Je voudrais juste indiquer que si je suis venu ici, c'est pas seulement parce que je connais Michel Contade d'une époque très reculée, mais que je suis orphelin de père depuis l'âge de 2 ans et que, en l'occurrence, ma sœur est née 2 mois après la mort de notre père. Et cette question de l'absence totale ou presque totale du père ne cesse de me hanter. Je ne veux pas développer ce sujet qui est un sujet en soi, mais en tout cas je suis incité à lire vos livres pour tenter de trouver peut-être en miroir ou dans une sorte de avec un décalage les réponses aux questions qu'on peut se poser quand on est dans ma situation à 74 ans. Évidemment, on a le temps de réfléchir, mais j'imagine qu'un certain nombre de personnes sont dans la même situation que moi.
C'est difficile mais je vous conseille effectivement de lire et le roman de Pascal Kramer et le récit de Michel Contat, parce qu'il y a probablement des choses qui pourront vous éclairer, je ne sais pas, mais... Oui, monsieur, après c'est...
Merci beaucoup pour vos 2 témoignages. C'est vrai que les histoires de filiation sont à la mode. Si je suis bien renseigné, il y a 2 films qui sont maintenant dans les écrans romans, c'est le film Le fils de Jean, que j'ai vu hier soir, et le fils de Joseph, pour dire simplement que c'est vraiment un thème qui est totalement dans le mille, si on veut. Merci beaucoup de vos témoignages. Michel Contat, puisque vous avez beaucoup travaillé sur Sartre, et que lui aussi, si je me souviens bien dans les mots, a surtout été élevé par sa mère et par sa grand-mère, a eu aussi un père absent. Je ne fais pas de rapport de cause à effet, évidemment, par rapport à votre travail critique sur l'œuvre de Sartre. Mais depuis la chute du communisme, puisque vous avez parlé de votre séjour en Allemagne de l'Est, ce que j'ai fait également, c'est vrai que l'étoile de Sartre a beaucoup pâli. Et vous avez parlé également de la figure paternelle ou de la figure, le maître à penser qu'il a incarné pour toute une génération. Et cette étoile maintenant a pâli, peut-être en faveur de celle de Camus, les 2 frères ennemis. Et je voulais vous demander si vous pensez que cette éclipse de Sartre comme maître à penser est temporelle ou qu'on peut imaginer un retour en grâce. Et puis peut-être aussi vous demander si notre époque n'est pas en manque de maître à penser, comme c'était encore le cas dans les années 80.
Oui, c'est une question vraiment large et importante que vous posez. La figure de Sartre a pâli, certes. Je dirais que dans l'ère de la francophonie, il est aujourd'hui considéré comme le mauvais objet politique. C'est sa politique qui est le plus souvent contestée et son ralliement comme compagnon de route au Parti communiste au début des années 50 et puis dans les années 70 son ralliement comme compagnon de route aussi aux maoïstes français, tout ça est très contesté, contestable d'ailleurs. Je dirais que de mon point de vue, qui est celui d'un sartrologue, son étoile n'a pas pâli du tout, parce que j'anime un groupe de recherche scientifique sur Sartre. Le travail se fait sur ses manuscrits. Mais j'anime aussi un groupe d'études sartriennes qui a environ 300 membres en France. Il y a en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, des sociétés sartriennes très actives, et je dirais que son œuvre continue d'être étudiée. Mais alors, du point de vue, comment dire, de la lecture du monde contemporain, c'est chez un disciple de Sartre, André Gortz, que je trouverai aujourd'hui les instruments intellectuels pour comprendre les luttes nécessaires, la contestation nécessaire des valeurs charriées par le capitalisme triomphant. Et si on veut, d'un point de vue aussi d'écologie politique, trouver les moyens d'analyser ce qui se passe dans les sociétés post-industrielles que nous, dans lesquelles nous vivons, c'est là que nous trouvons des instruments critiques aiguisé. Donc, je vous dirais d'une façon simple, lisez André Gortz. Il y a une biographie de lui qui vient de sortir aux éditions de La Découverte, qui est remarquable, et qui est une très bonne introduction à sa pensée, qui n'est pas facile.
Monsieur.
Oui, bonjour, j'ai une question un tout petit peu personnelle à Michel Contat. En fait, ce père absent que vous décrivez, je n'ai pas vu le vôtre lire, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quel est votre sentiment en fait, d'office par rapport à ce père absent. On a l'impression que vous l'admirez quelque part, mais il y a un manque affectif visiblement évident. Et je voulais savoir, en fait, ce point plus personnel, quels étaient vos sentiments par rapport à votre père, si vous voulez répondre.
Je dis la chose de façon sommaire dans le livre. Papa, principe de plaisir. Maman, principe de devoir, de responsabilité. J'ai essayé de d'équilibrer ces deux principes dans ma propre vie. Aujourd'hui, j'ai pour mon père une sorte d'affection désolée.
Parce qu'il n'est pas toujours vraiment assumable. Enfin, il n'est pas toujours assumable complètement, votre père, non plus.
Oui. C'est une jolie formule, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, nous n'avons pourtant pas épuiser le sujet des pères, qui est un sujet bien, bien compliqué, mais enfin, en tout cas, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Mais merci infiniment tous les deux. Je voudrais quand même rappeler les titres de vos livres. Ma vie côté père, donc votre récit, Michel Contat, et puis Autopsie d'un père, Pascal Kramer. Et je vous incite bien évidemment à lire les deux livres. J'imagine qu'on vous retrouve tout de suite en signature. Voilà. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci.